Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens en premier lieu à remercier vivement donc, le CNRHP pour cette invitation et particulièrement Agnès Maillou qui m'a contacté. J'ai bien évidemment accepté avec grand plaisir. Et donc je suis chargé aujourd'hui de vous parler des groupes sanguins rares et des particularités des immunisations antipubliques. Alors je sais qu'on est tous un peu en état d'hypoglycémie, donc j'espère pouvoir vous tenir jusqu'à la fin de ma présentation. Juste avant de commencer, quelques petits rappels sur les groupes sanguins. Donc, nous connaissons tous les phénotypes classiques A, B, ABO, RH+, RH-. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils ont un groupe rare quand ils sont de phénotype ORH négatif. Ce n'est pas rare, c'est très précieux certes, mais c'est loin d'être rare. Ça concerne à peu près 7% de la population, ce qui n'est pas suffisant en termes de définition de la rareté. Nous le verrons plus tard. En fait, les groupes sanguins, c'est redoutablement complexe, beaucoup plus qu'on le croit. Je vous ai mis ici une diapositive qui représente la majorité des systèmes de groupes sanguins, qui sont tous au niveau de la surface du globule rouge. Donc, il y en a beaucoup, c'est compliqué, et c'est malheureusement très peu connu, à la fois par le grand public et par certaines personnes dans le corps médical. Alors, il existe aujourd'hui 35 systèmes de groupes sanguins, ce qui représente 303 antigènes de groupes sanguins, auxquels s'ajoutent d'autres familles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Donc, au total, aujourd'hui, sont officiellement reconnus chez l'homme 342 antigènes érythrocytaires, autrement dit 342 anticorps différents potentiels que l'on peut rencontrer chez l'homme, ce qui est tout à fait considérable. Je vous ai ici représenté les 16 premiers systèmes de groupes sanguins. Ceux qui sont surlignés en jaune sont ceux que vous connaissez sans doute très bien, ceux qui font partie de la routine au sens large. Juste pour attirer votre attention, cependant, vous prenez le système RH, qui était donc le quatrième découvert au niveau chronologique. Il existe actuellement 54 antigènes reconnus dans le système RH. Donc quand on dit qu'on fait un phénotype RH complet en faisant le grand D, grand C, grand E, petit C, petit E, on est loin du compte. Il s'agit bien sûr des 5 antigènes majeurs. D'autres systèmes, vous voyez comme le système MNS, dont on connaît en fait, donc les 4 antigènes majeurs que sont grand M, grand N, grand S et petit S, il existe aujourd'hui 48 antigènes reconnus dans ce système. Donc cela est particulièrement complexe. Si on passe à la suite jusqu'au système numéro 35, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais juste j'ai surligné en couleur les 5 derniers systèmes qui ont été découverts, en particulier les systèmes numéros 32, 33, 34, que je souhaitais ici donc vous surligner, que sont JR, LAN et VEL, puisqu'ils ont été découverts dans nos équipes à l'INTS et avec la contribution déterminante du CNRGS. Alors, ces groupes sanguins, on peut les classer selon leur prévalence dans la population générale. J'insiste dans la population générale, c'est important. Donc, la nature est plutôt bizarrement faite, puisque on a à peu près la même proportion d'antigènes qu'on appelle antigènes publics, autrement dit de prévalence très élevée. Donc, dans la salle, je suis à peu près sûr, on les a tous, ceux-là. J'en ai mis ici 3 exemples. On les reverra tout à l'heure, je ne les ai pas mis par hasard. Donc, on peut dire virtuellement que dans la salle, on est probablement tous JRA+, JK3 positif et U+. En tout cas, je l'espère, sinon... Dans la zone à gauche du curseur se trouvent les antigènes dits de faible prévalence, voire de très faible prévalence. À ce moment-là, on dit que ce sont des antigènes privés, autrement dit retrouvés chez très peu d'individus. Je vous ai mis également le nom d'un antigène privé, qui est l'antigène VW, qui a une prévalence d'à peu près 1 pour 10 000. Et au milieu sont retrouvés les antigènes dits de fréquence équilibrée ou de prévalence équilibrée. Un exemple frappant est l'antigène FIA dans le système Duffy, qui est présent chez 66% de la population. Autrement dit, là, il y a un risque significatif. Si je prends, donc un receveur et un donneur au hasard, de donner donc du sang, donc Duffy A+, à quelqu'un qui serait Duffy A-, et il pourrait faire un anti-Duffy A. Donc, les problèmes en médecine de transfusion de routine, on peut dire aussi par extension donc d'obstétrique en routine, vont surtout se situer dans cette zone de prévalence équilibrée. Après, il n'est pas du tout exclu, en particulier en obstétrique, d'avoir des problèmes ici avec les antigènes privés, mais ce n'est pas l'objectif de mon propos. Et on va surtout se concentrer sur ces problématiques-là, parce que même si ce sont des antigènes qui sont présents chez quasiment tout le monde, il existe de rares sujets qui n'en ont pas et qu'on appelle les sujets donc publics négatifs. Alors, qu'appelle-t-on un groupe sanguin rare ? Pour être précis, on doit dire un phénotype érythrocytaire rare, puisque je n'oublie pas mes collègues qui travaillent dans le domaine donc de la plaquette, voire même des globules blancs. Là, on parle bien de groupe sanguin rare érythrocytaire. En médecine transfusionnelle, on parle de rareté quand cela conduit à une difficulté d'approvisionnement. C'est essentiel de bien le retenir. Tout à l'heure, je vous ai parlé des antigènes privés. L'antigène VW, par exemple, qui est présent chez un sujet pour 10 000, c'est un phénotype rare, il y en a très peu, mais ça ne cause aucune difficulté en transfusion. Il est très facile de trouver du sang qui ne présente pas l'antigène, bien sûr. Également, les variants faibles, par exemple dans le système ABO, ce qu'on appelle donc les variants AX, A3, AY, qui sont donc des phénotypes A faibles, sont rares dans la population générale, mais ils ne présentent aucun impact en transfusion particulier, puisqu'on peut les transfuser très facilement avec du sang O. Alors, il y a trois contextes différents qui définissent un groupe rare. Le premier est l'absence d'un antigène public. Je vais y revenir. D'ailleurs, on va commencer par ça, déjà. On verra après les deux autres. C'est ce qu'on appelle donc les sujets publics négatifs. Autrement dit, ce sont des personnes à qui il manque un antigène que quasiment tout le monde a. S'ils ne l'ont pas, dans une situation donc de stimulation, que ce soit par transfusion ou par grossesse, ils ont de bonnes chances de faire l'anticorps correspondant à cet antigène qu'ils ne connaissent pas, et donc faire l'anticorps anti-public, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la définition la plus courante d'un groupe sanguin rare. Je vous ai mis ici un exemple. Il existe par exemple des sujets qui sont VEL négatifs, c'est 4 sujets pour 10 000. C'est sûr que s'ils sont transfusés, on va forcément leur amener du sang VEL+. Si c'est une femme qui est VEL négative, son conjoint a toutes les chances d'être VEL positif. Ils peuvent, ce n'est pas à chaque fois, heureusement, faire un anticorps anti-VEL. À ce jour, il existe 147 différents phénotypes publics négatifs possibles chez l'homme. Donc c'est très large. Et le risque est donc ce développement d'anticorps antipublics et parfois, dans les cas dramatiques, d'une réelle impasse transfusionnelle. On n'a rien à disposition. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques cas qui sont particulièrement illustratifs. Donc voilà ce que c'est que l'image d'un anticorps antipublic. Alors, je dirais, en fait, pour ceux qui font de l'immunohématologie, ça paraît tout à fait évident. Et vous voyez que quand on teste le sérum ou le plasma dans les techniques de prédilection qui sont les nôtres, avec un panel d'hématites, donc de donneurs, vous voyez que tout agglutine partout. Et là, donc virtuellement, on ne peut rien donner. Alors, il importe déjà de définir la spécificité de l'anticorps rare et ensuite d'être sûr qu'il n'y a rien de caché derrière en anticorps courant. Puisque le problème, c'est qu'on peut très bien avoir un groupe rare avec un anticorps antipublic, mais ces gens ont également le droit de faire un anticorps anti-quel, un anti-PTC, un anti-D, un anti-DUFIA, etc. Ce qui va compliquer d'autant plus la situation. Le phénotype dit public négatif est un caractère qui est typiquement récessif, avec bien sûr une influence de la consanguinité parentale, et on incite toujours à rechercher dans la fratrie le groupe rare en question, puisqu'il y a une chance sur 4, selon les lois de la génétique classique, d'avoir un membre de la fratrie, entre guillemets, atteint, puisque il ne s'agit pas bien sûr d'une maladie, mais ça cause quand même problème. Je vous ai mis ici quelques exemples de groupes rares dans différents types de populations. L'un des groupes rares les plus fréquents dans la population originaire d'Europe de l'Ouest est le premier, qui est le sélano-négatif, ou petit cas moins, donc avec une prévalence de 2 pour 1000. Ensuite, on a le phénotype lutéran B-, avec 2 pour 1000, etc., etc. On ne va pas tous les citer, j'en ai pas le temps. Mais après, vous voyez qu'il y a des groupes nettement plus rares, comme le phénotype KPB-, à 4 pour 10 000. Le VEL négatif, on l'a vu tout à l'heure. Et puis après, on peut réellement tomber dans les limbes de la rareté. Ça peut arriver à 1 pour 1 million, voire 1 pour 10 millions. On a même des gens qui sont tout à fait uniques. On n'en connaît qu'un, en gros, voilà. Donc, il y a des gens qui également n'ont vraiment pas de chance parce que non seulement ils ont un groupe rare, mais ils ont même un deuxième. On a à peu près une quarantaine de sujets comme ça, répertoriés en France, que ce soit dans la population d'origine européenne ou d'origine africaine. Alors là, c'est vraiment très, très problématique, surtout quand ils ont fait les deux anticorps antipublics. Ça arrive. La situation est tout à fait différente dans la population d'origine africaine antillaise, puisque les groupes sanguins rares ne sont pas du tout les mêmes. Après, tout dépend dans quel prisme on se place. Je vous ai cité ici quelques groupes rares. Le premier est en particulier très problématique en France, qui est le grand S- petit S-, qu'on appelle également souvent U-, mais il existe deux formes. C'est le groupe sanguin rare qui, de loin, présente la plus forte tension entre la demande et la possibilité d'offre. C'est un vrai problème. Après, il y a tout un tas d'autres groupes rares que je vous ai listés là, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je crois. Deuxième définition de la rareté, celle-là, on l'oublie parfois, ou tout au moins, elle est source de confusion. Cette fois-ci, il ne manque pas un antigène public, il manque plusieurs antigènes communs au sein d'un même système de groupe. Alors, l'exemple type est le système RH. Je vous ai ici listé les 6 combinaisons phénotypiques rares dans le système RH. On va prendre, par exemple, donc la première combinaison. Ici, ce n'est pas le fait donc, d'être grand D- qui est rare, ni d'être grand E- ni d'être petit C-. Donc tout ça pris de manière individuelle n'est pas rare. Mais si vous combinez en particulier le D négatif avec le petit C négatif, là vous devenez tout à fait exceptionnel. Alors vous voyez qu'il y a il existe le plus rare parmi les 6 est celui-ci. On est à 3 sur 10 millions. Nous avons un seul donneur actif connu en France pour ce phénotype. Et là, bien évidemment, il ne faut pas donner de sang RH négatif, ça va de soi, puisque donc, la plupart du temps, ce sont des sujets qui sont grand D-, grand C- et grand E-, et petit C+, petit E+. Donc là, on a tout faux, si on fait ça. Troisième définition, c'est la même chose que la fois d'avant, mais cette fois-ci, il vous manque des antigènes communs, mais dans plusieurs systèmes de groupes sanguins différents. Alors, c'est ce qu'on appelle les combinaisons phénotypiques rares qui peuvent aboutir à des mélanges complexes d'anticorps. Alors, je vous ai mis ici une situation, certes, qui va peut-être sans doute vous paraître tout à fait invraisemblable, mais ça existe. Donc, c'est une patiente qui a ce phénotype-là, qui a développé tous ses anticorps. Donc, pour la transfuser en compatible, il faut absolument respecter tous ces critères que je vous ai listés ici. Et si vous faites le calcul, ça vous donne 1,7 sujets pour 100 000. Donc là, la situation est tout aussi compliquée. Ce n'est pas un phénotype de type public négatif, mais la situation est tout aussi complexe à gérer. On a la chance en France d'avoir une définition réglementaire de la rareté, ce qui est assez unique. Beaucoup de pays ne l'ont pas. Cette rareté au niveau des groupes sanguins correspond à un seuil de prévalence inférieur à 4 pour 1000. Autrement dit, si on raisonne pour les publics négatifs, ce sont des gens à qui il manque un antigène public qui est présent dans plus de 99,6% de la population. On peut aussi retourner la définition. Cette valeur, elle n'est pas consensuelle au niveau international, bien malheureusement. Alors, juste quelques données, je dirais que c'est un petit peu comme les maladies orphelines. Quand on les prend de manière isolée, il y en a très peu, mais quand on les rajoute toutes les unes avec les autres, ça en fait beaucoup. Et si on prend tous les groupes sanguins rares en France chez les sujets d'origine européenne, on aboutit à plus de 700 000 sujets qui ont un groupe rare et plusieurs dizaines de milliers qui sont présents dans la population d'origine africaine antillaise. La plupart s'ignorent, puisque nous avons pour mission au CNRGS de répertorier tous les sujets qui ont un groupe rare, c'est l'une de nos missions, et on n'en connaît que 13 500, donc vous voyez que c'est très peu par rapport à la totalité. Alors juste un mot de la Banque de sang rare nationale, c'est l'une des plus grosses banques au monde, et de loin, puisqu'il y a 6500 poches congelées à moins 80 degrés. Cette banque est présente à l'EFS Henri Mondor, c'est le CNRGS qui la gère au niveau biomédical, et c'est l'EFS qui la gère au niveau de la partie donc, logistique. Cependant, il y a beaucoup encore donc, de tensions malgré ce très grand nombre apparent de poches congelées. On assiste à une très forte augmentation des besoins, ça a été multiplié par 2 en l'espace de 10 ans, et je ne vais pas vous surprendre, environ 40% des demandes de sang rare en France concernent donc des malades drépanocytaires et une bonne part des femmes enceintes drépanocytaires. Je vais y revenir rapidement après. Je vais maintenant vous parler donc de trois cas, ce sera relativement court, je vous rassure, que je trouve particulièrement illustratifs de la problématique sans rare. Donc, le premier cas qui nous a beaucoup préoccupés au CNRGS, mais également au CNRHP, je pense que tout le monde a déjà deviné de qui il s'agit. En tout cas, donc ici à ma gauche, en décembre 2006, une femme enceinte issue de la communauté des gens du voyage se présente et très rapidement accouche et met au monde un enfant dans un état d'anémie néonatale très sévère, en état de mort apparente et avec un décès très rapide de l'enfant. Le laboratoire donc suspecte la présence d'un anticorps antipublic, nous l'adresse au CNRGS et nous identifions un anticorps qui s'appelle un anti-JRA de très haut titre, 1024. Donc, le phénotype JRA- est très très rare. On a été parmi les tout premiers à montrer qu'il est particulièrement fréquent, fréquent, toute proportion gardée, en Europe, dans la population des gens du voyage. Ça n'était pas connu avant. On peut dire en gros que 70% des personnes JRA- connues au CNRGS sont des gens du voyage. Il est également connu, ce phénotype, en Asie du Nord-Est, en particulier au Japon, où on estime qu'il y a 100 000 personnes au Japon qui sont de groupe sanguin JRA-. Bien malheureusement, nous avons été les premiers à décrire une incompatibilité phytomaternelle gravissime, fatale, à cause de cet anticorps. Donc ça a fait l'objet d'une publication dans la revue américaine Transfusion, et j'ai été particulièrement touché de voir que ce fut la toute dernière publication internationale de M. Brossard, qui est sortie en septembre 2008. Donc je suis tout en plus sensible à cela, on avait énormément collaboré ensemble sur ce cas. Alors cette femme, malheureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2007, nouvelle grossesse, et tant qu'à faire, cette grossesse est gémellaire. Anémie fœtale sévère à la 28e semaine, cet anticorps est réputé particulièrement toxique à partir de ce stade, en gros à partir de la 26e, 28e semaine, avec un taux estimé à 4 g et 4,3 g au niveau des deux fœtus. La patiente, non sans mal, a été mutée sur Paris-Saint-Antoine et des transfusions ont été effectuées in utero, non sans mal là encore, donc je vous passerai les détails, sous le contrôle permanent du CNRHP. Alors l'un des écueils de ces transfusions in utero, parce qu'on n'avait pas trop le choix, le sang JRA- est très très rare, on en a très peu, on n'a malheureusement pas pu faire autrement qu'en donnant du sang O JRA- que de donner du sang grand E+, la patiente était grand E-, et elle a développé un anti-grand E suite à la transfusion in utero. Les enfants sont aujourd'hui en bonne santé. 2014, nouvelle grossesse. La patiente est encore moins compliante qu'avant, ce qui est une gageure. Et le suivi de la grossesse devient très très compliqué. Elle ne se présente pas au bilan, elle vient en fait aux urgences, elle repart, bref. Donc ça a été très compliqué. Une souffrance fœtale très sévère est notée au cinquième mois. Il est finalement décidé une interruption médicale de grossesse au vu de la gravité extrême de l'atteinte fœtale. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais en tout cas, on a été très proche avec Madame Cortet sur ce dossier, avec des communications pratiquement dans toutes les semaines, fut un moment. Alors, suite à ce cas-là, donc suite à cette femme, d'autres cas de maladies hémolytiques, d'autres cas donc très graves d'anémie néonatale donc par anticorps anti-JRA ont suivi. Et il y a quelque chose d'important que j'aimerais vous dire, parce que ça a été vu ce matin et présenté en particulier donc par Madame donc Maisonneuve. Cet anticorps anti-JRA se comporte exactement comme un antiquel. Il est très peu hémolysant et il semble bloquer l'érythropoïèse. C'est le seul cas dans les anticorps rares, dans les anticorps antipublics, avec un autre anticorps rare qu'on appelle l'anti-Gerbich 3. Alors, on avait également présenté au niveau du CNRHP, donc avec M. Brossard, Anne Cortet et Bruno Carbone, cette présentation qui avait fait l'objet d'une présentation orale au congrès de l'AIBB aux États-Unis, où on avait suivi 20 grossesses donc par anti-JRA. Il y a quand même un certain nombre de grossesses, malheureusement, qui vraiment se passent mal, et en particulier toujours à partir de la 28e semaine, où vraiment on a vraiment l'impression que c'est le cap qui doit être passé. Le deuxième cas, en 2009, est une femme enceinte originaire d'Algérie de groupe A qui présentait un phénotype exceptionnel. Donc, JK-A-B-, donc ça, c'est à peu près un sujet pour un million. Hein. Et en plus, elle a eu la bonne mauvaise idée d'être RH négatif. Grand D-, grand C-, grand E-. Le CNRGS a identifié l'anticorps antipublic correspondant au groupe sanguin JK-B-, qu'on appelle un anti-JK3. Et en fin de grossesse, a été trouvé, en plus de l'anti-JK3, un anti-D extrêmement puissant et un anti-G, qui est un anticorps qui appartient au système RH. Aucun donneur compatible en France, malgré la trentaine de, donc de poches congelées JK-B- en France, malheureusement, on n'en avait aucune qui était grand D-, grand C-, grand E-. Donc, dans un premier temps, le nouveau-né qui était trouvé de groupe A a été transfusé avec le sang maternel lavé pour se débarrasser de l'anticorps antipublic. Et je suppose aussi de l'anti-D. Voilà, donc cette femme, une nouvelle grossesse en 2012, une transfusion in utero est indiquée. Donc la patiente avait quand même pris la précaution de faire deux dons auprès de la Banque de sang rare nationale, sauf qu'elle est de groupe A, donc pour une transfusion in utero, on n'aime pas trop, même si on sait que c'est possible dans certains cas extrêmes, de transfuser en incompatible au niveau de la BO. Et on a pu localiser finalement un donneur compatible en Finlande. L'importation de sang a été organisée, mais je tiens à vous dire que c'est très compliqué d'importer du sang. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage. On a mis presque 10 jours pour avoir une poche. Donc il y a beaucoup d'obstacles à franchir. Malheureusement, le sang rare n'a pas le même statut que les organes. C'est bien dommage. Le troisième cas est une femme enceinte drépanocytaire d'origine somalienne qui habite donc en Suède, à Stockholm. Elle a un groupe sanguin rare qu'on appelle U-, on l'a vu tout à l'heure, et a développé un puissant anticorps anti-U, qui est un anticorps très toxique en obstétrique, il faut vraiment s'en méfier. Alors, il n'y avait aucun donneur U- en Suède, aucun en tout cas dans toute la partie de la Scandinavie. Anémie fœtale sévère, une demande de sang rare U- pour transfusion in utero. On a été contacté au CNRGS. Nous avons pu identifier un donneur qui a été prélevé en aphérèse double. Et donc deux CGR ont été exportés en Suède. On préfère toujours envoyer du sang frais plutôt que du sang décongelé quand on le peut, parce que ça a quand même une meilleure efficacité et c'est un meilleur rendement. Alors quand on veut en fait faire une exportation, il faut avoir l'autorisation du président de l'EFS, donc on l'organise ça avec lui, ou par un de ses représentants bien sûr. 2012, nouvelle grossesse, encore donc l'anti-U toujours là, deux transfusions in utero toujours organisées avec le CNRGS, après convocation de donneur. Alors en fait, les gens après, bon, en fait, vu qu'on donne suite, ils pensent que c'est vraiment très facile d'organiser tout ça, mais ils ne se rendent pas compte, hein. C'est bien le problème. 2013, on recommence. Hein, donc voilà, on espère que ça va s'arrêter. Juste pour terminer, les faits marquants au cours des 10 dernières années par rapport au sang rare. En dehors de l'avènement de la biologie moléculaire qui a été une véritable révolution pour nous, hein, et du génotypage, mais en dehors de ça, et c'est vrai également donc pour le dépistage des groupes rares, c'est réellement l'augmentation tout à fait considérable de la prévalence de la drépanocytose, non seulement en France, mais également en Europe. Le problème s'internationalise et nous sommes de plus en plus en fait, contactés à l'INTS, au CNRGS, pour résoudre ce type de problématique. On n'a pas le statut de centre européen, la banque de sang rare est nationale, donc ça commence à créer des problèmes. D'autant plus que, juste pour votre gouvernement personnel, le sang rare dans d'autres banques est très cher. Vous prenez une poche de sang rare à la Banque d'Amsterdam, ça coûte 4 500 €, la poche, hors transport. En France, elle vaut 10 fois moins, ça commence à se savoir. Les femmes enceintes drépanocytaires, c'est un vrai problème, c'est sans doute ce qui est le plus difficile pour nous à gérer au CNRGS. Très compliqué, et ça va sans doute prendre d'autres proportions. Le développement des connaissances, hein, au niveau de l'intérêt obstétrical d'anticorps rares, l'anticorps anti-JRA, dans notre Bible de l'époque, c'était marqué absence d'anémie fœtale. Or, on sait aujourd'hui que ça peut être un anticorps très dangereux. on suit à peu près 3 à 4 grossesses par an par anti-JRA, toujours en collaboration étroite avec, bien sûr, le CNRHP. La hausse significative chez la femme enceinte également au cours des 10 dernières années, donc d'un nouveau protocole qui est le prélèvement d'unités en cours de grossesse, plutôt donc vers la fin de grossesse, ça c'est quand même réservé quand on a un anticorps déjà et qui est toxique. Et puis un nouveau protocole également, alors c'est très bien mais qui nous cause beaucoup de soucis d'organisation, c'est qu'aujourd'hui même quand une femme qui accouche a un groupe rare, qu'elle n'a pas l'anticorps correspondant, donc en fait qu'elle n'a pas d'antipublic, le clinicien veut avoir ses deux poches pour sécuriser l'accouchement. Alors il y a une dizaine d'années c'était non d'emblée, hein. Alors aujourd'hui, on est conscient des problèmes et on essaie, dans la mesure du possible, de mettre à disposition deux culots, mais c'est très lourd à organiser. Et là encore, quand les gens ont eu l'habitude de les avoir, après, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne les ont plus. Donc, en gros, c'est vous vous débrouillez, je veux mes deux poches. Voilà. Donc, il faut prendre les dispositions pour. J'aimerais juste terminer en remerciant, bien sûr, donc, l'ensemble du CNRGS, le personnel de la Banque nationale de sang rare et également les référents sang rare de l'ESS qui font un travail qui est tout à fait remarquable, je tiens vraiment à le dire. Le CNRHP, les unités cliniques et biologiques avec qui nous collaborons très régulièrement et de manière synergique au niveau de la prise en charge de toutes ces femmes enceintes et qui nous causent bien du tourment, mais c'est tout à fait passionnant. Merci à tous pour votre attention.